Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kg de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve pour les news, pour une nouvelle année aussi. Donc, je vous souhaite à tous, bien sûr, les meilleurs vœux. Et puis, au milieu de tout ce chaos dont on entend parler, eh bien, j'espère qu'on arrivera à vivre quand même pleinement tous nos bonheurs et tous nos espoirs. Alors, je vais commencer par une nouvelle qui a été un peu difficile, puisque c'est la mort de Francis Allais, mais bien qu'il ait 87 ans au moment de sa mort et qu'il soit mort d'une manière très paisible. Donc le monde entier a rendu hommage au célèbre botaniste montpelliérain. Il nous a quittés à l'aube de la nouvelle année. Nous parlerons plus tard de son travail scientifique. Aujourd'hui, on rend hommage à l'homme. Nous sommes nombreux à avoir des souvenirs partagés avec Francis, car il a œuvré pour toutes les générations. Sa voix, traînante, paisible, résonnera longtemps pour les enfants à qui il expliquait ce qu'est un arbre. Et oui, on ne sait pas tous exactement ce qu'est un arbre. Pour les chercheurs et étudiants qui ont travaillé avec lui sur l'architecture des forêts, pour nous tous qui avons rêvé grâce au superbe film de Luc Jacquet, Il était une forêt, dont Francis Allais était le personnage. Pas toujours facile, entre ses coups de gueule, sa détestation des technocrates, sa méfiance des politiques. Écoutons.
Il me semble qu'il y a dans les plantes des choses admirables qu'il importe de montrer aux gens. Personne ne peut dire que ça ne mérite pas d'être montré.
Je m'appelle Francis Allais. J'ai passé ma vie en forêt à regarder naître, vivre et mourir les arbres. Je voudrais, avant qu'il ne soit trop tard, vous faire partager ce voyage de toute une vie, l'histoire des arbres, des grandes forêts des tropiques.
Luc, il ne saura jamais à quel point je lui suis reconnaissant d'avoir lancé cette histoire. Parce que moi, sans avoir l'air, j'y travaille depuis 20 ans.
Il m'a cité, je me souviens à l'époque, le monde du silence. On dira, le monde du silence a amené les gens à découvrir le monde sous-marin et peut-être qu'on peut faire la même chose sur la forêt.
Quand je pense qu'il y a 700 ans, ce géant était une graine minuscule.
La forêt primaire, si j'avais à la résumer de la manière la plus simple possible, c'est un endroit qui n'a jamais été abîmé par l'homme. C'est pas juste du bois, comme on pourrait croire, mais en fait, c'est un maillage inextricable entre les êtres vivants qui sont tous dépendants les uns des autres.
Une vingtaine de jours en Guyane, et ça a été l'emballement immédiat.
La première sensation pour moi, c'est un bien-être absolu. Et puis ce médiateur incroyable qui est Francis.
Ça sent très très bon.
Toujours pour moi l'occasion d'apprendre plein de choses. Le sentiment d'être extrêmement privilégié pour être en forêt avec lui.
Il touche, il prend, il sent, regarde ça, alors ça cet arbre, il vit avec celui-là, parce que... Et tout de suite, c'est des histoires. Il avait été capable de me transformer les arbres au personnage. Communiquent entre eux, qui luttent entre eux, qui attirent des prédateurs, qui vont être capables de mettre en place des stratégies absolument éblouissantes. Et je me suis dit, mais là, il y a un film.
Pour moi, qui ne suis pas du métier, ça me paraissait plus facile de filmer des arbres que des animaux, puisqu'ils ne bougent pas. Eh bien, apparemment, c'est exactement l'inverse.
À partir du moment où j'ai eu cette espèce de révélation, je me suis dit, mais comment je vais faire ça? Comment? La caméra, c'est un truc qu'on regarde comme ça. Les arbres, il faudrait tourner la caméra, donc déjà, c'est perdu.
Et évidemment, le cinéma, ça marche sur le son et le mouvement. Et c'est vrai que les arbres, ils sont un peu limités de ce côté-là. Ils ont d'autres qualités, mais ils font pas beaucoup de bruit.
Ben voilà, c'est le pari de ce film, c'est-à-dire essayer de voir les arbres différemment, parce que je vous assure qu'il y a un potentiel d'émerveillement là-dedans qui est considérable. Raconte une histoire et je fais de sorte que cette histoire soit simple, compréhensible et universelle. Quand on a compris quelque chose, quand on a de l'empathie pour quelque chose, on n'a plus du tout le même comportement. Plutôt que de culpabiliser les gens, c'est d'aller les chercher sur l'émotion.
Il y a des millions d'années, nous sommes nés là, dans les plus hautes branches de la canopée. Mais nous l'avons oublié.
Alors bien sûr, je ne vous ai pas représenté Luc Jacquet, puisque chacun d'entre nous gardons le souvenir de ce grand cinéaste animalier. On lui doit bien sûr La Marche de l'Empereur. Donc voilà. En fait, quand j'ai connu Francis Allais, je n'étais pas encore journaliste. Je venais de créer aux Amis de la Terre l'association Solidarité Forêt, et la déforestation causait des ravages. Il m'a tout appris. Que la forêt vierge n'existe pas, pas plus que le bon sauvage. Pour lui, l'homme, quel qu'il soit, se conduit mal avec la forêt qu'il faudrait laisser en paix.
Les gens aiment que ça soit propre. Cette notion de propreté, elle est opposée à la biologie. Il ne faut pas qu'il y ait de petites plantes au bas des murs. Les plantes sont méprisées. Il y a un coupable pour ça. Aristote, 25 siècles en arrière, c'est lui qui a dit que les plantes, c'est une forme de vie inférieure. Nous, oui. Mais les plantes, ça ne parle pas et ça ne marche pas. Donc pour lui, c'est évidemment une forme de vie inférieure. Eh bien, on est encore sur les idées d'Aristote. C'est mon ennemi personnel. Alors, avec ce nom philosophe, hein. Mais il n'aurait pas dû se mêler de botanique.
La génération d'aujourd'hui connaît Francis Allais pour son projet, son rêve de retrouver une forêt primaire en Europe. Le périmètre se déroulerait aux confins de la Pologne, sur 70 000 hectares. L'association Francis Allais, qu'il a créée, continuera bien sûr de porter ce difficile projet fou. Je dis fou car il le disait lui-même. Cela relève d'un autre rapport au temps.
C'est une forêt où il n'y a aucune trace d'activité humaine, ni récente, ni ancienne. On est sur une planète où toutes les forêts ont été visitées. Partout où l'être humain est passé, il a pris du bois mort, des fruits, des trucs comme ça, c'est normal. Il faut que ces traces-là aient disparu. C'est parfaitement faisable, mais c'est long. On compte 7 siècles. Alors c'est là que c'est utopique, parce que qu'est-ce qu'il en sera dans 7 siècles? Est-ce qu'il y aura encore l'Europe? Est-ce qu'il y aura encore la France? Personne n'en sait rien. Ben, à mon avis, ce n'est pas une raison pour ne pas essayer.
Francis Allais est donc un homme qui a appris à lever les yeux pour découvrir au-delà du charme d'un arbre le monde complexe du vivant, fait d'un foisonnement d'espèces, de fascinantes symbioses, de stratégies que nous avons du mal à comprendre. Pour moi, il restera cet homme du radeau des cimes et de la canopée. Entre la fin des années 80 et les années 2010, il participa à une dizaine d'expéditions au Brésil, au Cameroun, Panama, Gabon, Madagascar, Laos, associant toujours des experts locaux aux scientifiques internationaux. En 1989, il devait conduire son expédition scientifique au Brésil. Mais parce qu'il n'avait pas tout fait en règle, comme d'habitude, et qu'on lui faisait payer le fait que Mitterrand ait reçu le chef amérindien Raoni, l'armée confisqua son matériel. Il fallut en toute urgence tout rapatrier sur la Guyane et surtout y trouver un site capable d'accueillir le radeau et de loger une cinquantaine de scientifiques. Une épopée qui paradoxalement, nous conduisit tout près du très controversé barrage de Petit Saut. Grands arbres pour retrouver la mer. Vous avez suivi en juin dernier la course aux signatures dans nos émissions sur l'UNOC, l'UNOC 3, qui se déroulait à Nice. Il fallait qu'une convention protège la haute mer. 60 signatures ont été recueillies. Enfin, et le 17 janvier, l'accord BBNJ entrera en vigueur. Il doit préciser les conditions d'exercice de la pêche industrielle et de loisirs, les conditions de l'exploitation des grands fonds, les règles de circulation en haute mer. La gouvernance de ce qui était le res nullus, c'est-à-dire qui n'appartient à personne, va prendre forme. Une nouvelle convention internationale voit le jour. Espérons qu'elle sera respectée dans ce monde qui semble désormais céder aux droits du plus fort. Vendredi 16 janvier, notre émission lui sera consacrée. Enfin, un véritable événement Cévenol. En décembre dernier, le Languedoc-Roussillon a renoué avec la tradition des événements Cévenol qu'on nous annonçait depuis des années et qui ne tombait jamais ici, mais toujours en priorité sur les Cévennes, comme le nom l'indique, et qui laissait la sécheresse s'étendre sur la région. À la veille des fêtes de Noël, des litres d'eau bienvenue se sont déversés sur Montpellier, de quoi aggraver les crues de la Mosson, et comme d'habitude, les points sensibles se sont transformés en petits lacs. Des rues ont été inondées, et comme le nouveau tunnel cyclable, mais c'était prévu, le Lez est sorti de son lit. Voitures et trams ont dû s'arrêter pendant quelques heures. Parcs, jardins, marchés de Noël ont été fermés. Ce fut l'occasion, bien sûr, pour les écologistes et Jean-Louis et l'équipe de Jean-Louis Roumégas de rappeler que trop de béton habille encore Montpellier, qu'il était nécessaire d'ouvrir le chantier de la débitumisation et de respecter des normes de construction de bâtiments et d'infrastructures. Effectivement, si on regarde bien ce qui s'est passé, certains bâtiments qui étaient construits en 2024, c'est-à-dire alors que tout avait été dit sur les risques liés aux événements extrêmes, et ont eu encore les pieds dans l'eau. L'inondation des parkings, ce ne serait pas tellement catastrophique, mais de ce fait, les ascenseurs ne se trouvaient tous hors service. Et des gens qui avaient choisi ces appartements à cause des ascenseurs se sont trouvés effectivement coincés. Comment peut-on construire encore en 2024 en faisant de telles erreurs ? Les événements climatiques extrêmes sont toujours révélateurs des erreurs humaines. Mauvaise construction, structure inadéquate ou mauvaise gestion des eaux usées. C'est ainsi que les pauvres ostréiculteurs de l'étang de Thau, une nouvelle fois, ont vu leurs huîtres interdites de vente au 1er janvier. Avec les fortes pluies, les eaux usées se sont déversées dans la lagune et un norovirus a rendu les coquillages impropres à la consommation. Les déversements sont un dysfonctionnement répété des eaux non traitées qui tombent dans l'étang lors de pluies diluviennes. Malgré un énorme travail de surveillance du Vigito, pas encore suffisante, même si la profession a pu anticiper les risques météo au mieux. Vous avez sans doute beaucoup entendu parler du Venezuela ces derniers temps. D'abord, ça vous a permis de regarder sur une carte où ça se trouvait. C'était à côté de la Colombie. En tout cas, moi, j'ai revérifié un petit peu ma géographie. Alors, nous n'entrerons pas ici dans le grand débat politique de la violation du droit international, des ingérences étrangères. Simplement, il est évident que Donald Trump n'a pas agi par souci de plus de démocratie et qu'il tient surtout à mettre la main sur les réserves pétrolières phénoménales du Venezuela, dont France 24 nous décrit ici l'histoire.
Le Venezuela est assis sur les plus grandes réserves de pétrole de la planète. Elles représentent 17% du total mondial. Pendant des années, le pays a tenté de résister aux sanctions américaines pour maintenir à flot son économie entièrement dépendante de l'or noir et en très grande difficulté. Mais le renforcement des sanctions contre le Venezuela, imposées par les États-Unis dès 2019, et les récentes interceptions de pétroliers au nom de la lutte contre le narcotrafic ont accéléré les choses. Washington veut assécher les sources de financement du régime vénézuélien.
Ce que nous voyons est une autre stratégie et avec elle une autre tactique qui consiste à priver le régime de ressources, lui retirer l'argent qu'il reçoit des expéditions de pétrole fondamentalement illégales vers ses alliés, y compris la Chine, l'Iran et la Russie.
La production de pétrole vénézuélien a culminé au début des années 2000 à plus de 3 millions de barils par jour. Mais des années de mauvaise gestion et de corruption, les sanctions, le délabrement des infrastructures et le manque d'investissement ont fini par provoquer un effondrement de la production en 2020. Conséquence, Caracas exporte illégalement son pétrole et souvent à des tarifs au rabais par rapport au prix du marché. Principal bénéficiaire, la Chine, alliée du Venezuela, qui reçoit plus de 80% de la production de pétrole vénézuélien. Quelques 17% des exportations vont aux États-Unis par l'intermédiaire de Chevron, l'unique entreprise américaine autorisée à acheminer du pétrole vénézuélien vers les États-Unis. Face à l'appétit américain pour les hydrocarbures du Venezuela, Nicolas Maduro, sous pression, a tenté d'apaiser la situation jeudi.
S'ils veulent du pétrole du Venezuela, le Venezuela est prêt à accueillir des investissements américains, comme avec Chevron.
Depuis les nationalisations opérées en 2007 par Hugo Chavez, le prédécesseur de Nicolas Maduro, la plupart des groupes énergétiques américains ont dû quitter le pays ou céder l'essentiel de leur part dans les co-entreprises qui gèrent les champs pétroliers. Des pertes financières pour les États-Unis de Trump, qui a le mois dernier exigé de Caracas un remboursement des avoirs pétroliers américains.
Trump estime que l'extraction vénézuélienne n'était pas correctement menée. Ce pétrole est visqueux, dense, riche en soufre et en métaux, et l'exploitation produit beaucoup de déchets et d'émissions polluantes, et l'empreinte carbone par baril est plus élevée que pour le pétrole léger. Ce qui conduit certains experts à considérer que Trump voit ce pétrole non comme utilisable dans les médias. Il faudra au moins 10 ans pour rénover le système et des milliers de dollars et des millions de dollars, mais plutôt comme un capitalisme de finitude. Et c'est un nouveau terme qui apparaît, c'est-à-dire une sorte de réserve. Et c'est pour ça aussi qu'il voudrait s'adjoindre le Groenland et Cuba, et puis demain le Brésil, pourquoi pas. On sécurise, on accapare des ressources rares dans des zones d'influence exclusives, en l'occurrence les USA et leur proximité. Et maintenant, donc, place aussi à quelque chose dont vous avez dû beaucoup entendre parler.
Mais...
il a peur des loups.
Ah, mais il ne faut pas, parce qu'à la base, le premier loup, il vivait dans la forêt et il n'avait pas de copains.
Eh ben, sympa.
En même temps, si tu mangeais pas tout le monde...
Je suis un loup. Qu'est-ce que tu veux que je mange?
Ah déjà, pas des gens. Des carottes, des champignons, des fruits, des légumes, quoi.
Ça chasse comment, les légumes?
Pff, laisse tomber, là.
Et voilà, ben vous l'avez tout entendu, cette publicité qui a été faite par Intermarché pendant Noël et qui nous montrait un loup qui avait dévoré tous ses petits amis et qui finalement se retrouvait le mal-aimé comme Claude François. Et finalement, eh bien, ce loup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à devenir végétarien. Il va récupérer partout des légumes et il va faire un gros repas. Et au moment de faire la fête, alors que presque tous ses amis sont en train de le fuir, sauf le petit écureuil qu'il a sauvegardé, eh bien, il va leur offrir vraiment ce plat végétarien. Tout aurait été parfait si dans ce plat végétarien, on ne s'était aperçu qu'il y avait un poisson. Or, le poisson n'a rien à voir avec un régime végétarien. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Bloom, l'association qui lutte contre la surpêche avec Claire Nouvion, eh bien, a porté plainte, mais simplement auprès du jury d'ontologie publicitaire de l'ARP, c'est-à-dire en tant que publicité mensongère. Elle n'a jamais porté plainte, comme ça a été écrit un peu partout. Alors, bien sûr, tout le monde a un peu s'est révolté en disant « Enfin, on avait une belle pub !» Et voilà que, comme d'habitude, les écolos sont des tristounets et nous font de l'écologie négative. Voilà que les écolos portent plainte. Eh bien non. En fait, Claire Nouvion a ensuite s'est expliquée et est revenue sur cette action qu'elle avait menée. Mais ce n'était pas un hasard. Mais en fait, pour la deuxième fois, eh bien, elle se heurtait à Intermarché et elle pense que ce loup végétarien qui consomme du poisson, eh bien, ancre dans l'imaginaire collectif le fait qu'un végétarien peut manger du poisson. Et donc, elle y voyait, elle, une pub pour le poisson, sachant qu'Intermarché possède sa flotte personnelle, la SCAPêche, qui pratique le chalutage industriel et non la pêche à la ligne, comme le fait le loup. Et en 2012, une première plainte contre SCAPêche, leader de la pêche au chalut en eau profonde, avait été lancée. Bloom a demandé donc le retrait des images du poisson du clip publicitaire. Dans les jours et les semaines qui viennent, on va beaucoup parler de santé. Et pourquoi ? Eh bien parce que dans ses vœux, qui ont été assez succincts, le président de la République a évoqué les dossiers qui étaient restés un petit peu en laisse, enfin qu'on avait un peu laissé de côté, et qu'on va relancer cette année 2026. La santé en fait partie. Elle est liée d'une part à tout un tissu de nouvelles technologies sont liées à des biotechnologies et qui relèveront donc de problèmes dont on va beaucoup discuter d'éthique. On discutera également, bien sûr, du droit à mourir dont la loi n'est toujours pas aboutie. Et puis, en fait, on continue à avancer sur une de ces questions dont on a beaucoup parlé ici sur cette antenne, c'est-à-dire One Health. Cet esprit de la santé, comme quoi la santé est liée à tout le reste. La santé est liée à la fois à votre environnement, elle est liée à votre nourriture, elle est liée à l'air que vous respirez, elle est liée donc au transport, elle est liée à la maison dans laquelle vous habitez. Et donc, finalement, tout un tissu économique et politique se rassemble autour de la santé. L'UICN, d'ailleurs, commence à se mobiliser, l'Union internationale de conservation de la nature, commence à se mobiliser sur ce sujet et montre en quoi la nature, justement, ne doit pas être oubliée parmi les remèdes ou parmi, en tout cas, tout ce qu'elle apporte de bien à votre état. Un sommet international donc, va avoir lieu bientôt sur cet enjeu majeur. Il est prévu le 7 avril 2026 et c'est Lyon qui accueillera ce sommet One Health. L'événement est organisé à l'initiative de la France, bien sûr, et vise à promouvoir sur la scène internationale cette approche des politiques sanitaires qui gagnent du terrain dans le monde scientifique. Un concept qui a trouvé finalement une nouvelle vigueur dans la foulée du Covid-19 et qui vise à prendre en compte non seulement la santé humaine, mais aussi celle des écosystèmes et des animaux de façon interconnectée. Vous avez vu notamment qu'avec la dermatose et avec la fièvre porcine, bien des élevages étaient menacés et qu'on remettait en question toutes les conditions d'élevage. Dans les faits, difficile de prédire quelle sera la portée réelle de cet événement. Il s'inscrit dans la continuité de plusieurs One Planet Summit. Il est organisé par la France, bien sûr. Les Planet Summit ont été organisés depuis 2017 sur des thématiques très variées, comme la biodiversité, les océans, les forêts. Et elle programme, bien sûr, donc, ce plan santé qui va toucher Montpellier très directement, puisque, ne l'oublions pas, nous possédons ici Med-Vallée. Mais Emmanuel Macron compte bien sur la présence des chefs d'État et de gouvernement. Il tente d'imprimer, sur le plan international, son volontarisme en matière d'environnement. Il faudrait bien sûr faire beaucoup d'autres choses. Thank you. sûr, beaucoup d'autres choses se sont passées dans les deux mois qui précédaient, mais il nous a fallu faire un tri et je n'ai réservé là que l'exceptionnel. D'autant qu'il faut quand même suivre tout ce qui tient à cette crise pétrolière au Venezuela, car est-ce que cela aura une incidence sur la manière dont on va repercevoir aujourd'hui le réchauffement climatique? C'est à voir, et les COP qui viennent nous renseigneront sur ce fait. Mais encore, comme je l'ai dit, plus de pétrole ne veut pas forcément dire plus d'utilisation du pétrole. Bien, je vous souhaite à tous donc un très bon week-end, une bonne semaine, une année 2026, je répète, qui vous soit douce et agréable à vous et aux vôtres. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'océan.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.